VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
11h à Bamako, midi à Bangui, bienvenue à notre journal. En Côte d'Ivoire, les électeurs se rendent aux urnes le 25 octobre pour élire leur prochain chef d'État. Sept candidats affrontent le président sortant Alassane Ouattara, donné grand favori vu que l'opposition est divisée. Le point avec notre envoyé spécial à Abidjan, Tatiana Mosso.
La campagne électorale entre dans sa dernière ligne droite. Vendredi soir, les grands candidats organiseront leur dernier meeting. En attendant, la capitale ivoirienne et certaines villes de province sont le théâtre de meetings politiques, mais sans égal à la frénésie de la campagne présidentielle de 2010. Aucun incident majeur n'a été noté. Cependant, le faible engouement des électeurs pour retirer leurs cartes continue d'alimenter les pronostics sur le taux de participation au scrutin. Une participation qui s'annonce plutôt faible. Il y a 5 ans, lors du premier tour de l'élection, le taux de participation s'élevait à plus de 80%. Dans l'idée de convaincre les derniers citoyens indécis de se rendre aux urnes, la CEI, la Commission électorale indépendante, continue à travers les médias nationaux de sensibiliser la population ivoirienne pour qu'elle se déplace massivement le jour du scrutin, dimanche 25 octobre.
Alors qu'il ne reste que 2 jours de campagne aux différents candidats pour convaincre l'électorat, nombreux sont ceux qui n'ont pas encore été chercher l'accord d'électeurs, leur donnant accès aux urnes. Pour faire le point de la situation, de nouveau, notre envoyé spécial Tatiana Mosso, qui a tendu son micro à la fois aux Ivoiriens qui hésitent à aller voter dimanche, et aussi à ceux convaincus de la nécessité d'accomplir leur devoir électoral.
C'est un acte civique, et ça contribue d'ailleurs à l'épanouissement de mon pays.
Il y a 5 ans, vous aviez 20 ans. Est-ce que vous avez voté?
Non, j'ai pas voté.
Pourquoi?
Bon, parce qu'en 2010, vous savez, la Côte d'Ivoire n'était pas celle qu'elle est présentement. Donc, je ne vais pas entrer dans cet détail, mais vous pourrez savoir quand même.
Mais pourquoi vous n'avez pas voté? La crise s'est arrivée après?
La crise s'est arrivée après, mais il y avait quand même des méfiances. C'était mieux de rester chez soi, franchement.
Plutôt que d'aller voter?
Plutôt que d'aller voter.
Mais pourtant, ça s'est empiré après le vote, pas avant.
Parce que ça a engendré surtout des représailles à certains qui sont allés voter, qui ont été empêchés, qui ont été menacés. Bon, ce sont des choses qu'on a laissées derrière soi, donc je n'aimerais pas en parler encore.
Et aujourd'hui, vous êtes prêt à aller voter sereinement?
Bien sûr que oui, j'irai voter dimanche tout simplement et puis venir à la maison.
Le vote, c'est dimanche. Est-ce que vous allez aller voter?
Non, moi, je ne vais pas voter. J'ai décidé de ne pas aller voter parce que pour moi, toutes les conditions ne sont pas réunies pour garantir des élections justes et transparentes.
Qu'est-ce qui n'est pas réuni selon vous? C'est quoi les conditions?
Les conditions, pour moi, c'est d'abord une liste électorale qui ne sont pas consensuelles. Il y a aussi la confection des cartes d'électeurs qui ne sont pas consensuelles. Il y a aussi l'environnement sécuritaire qui n'est pas favorable.
Vous ne pensez pas que le vote, justement, c'est important pour pouvoir faire changer les choses?
Ben oui, mais si on doit faire changer les choses, parce qu'une chose est d'y aller et une chose est aussi de gagner. Il ne faut pas aller pour aller légitimer à la réélection de quelqu'un ou bien l'élection de quelqu'un en pensant que bon, le fait d'aller satisfaire à un droit de vote ou bien droit civique, bon ben voilà, on pense qu'on peut changer les choses. Non, c'est pas comme ça. Il faut qu'on aille en rang serré, il faut qu'on aille de façon consensuelle pour que tout le monde ait sa chance de personnel. C'est un sentiment personnel. Moi, je me dis, quand on arrive au pouvoir et on fait des promesses faramineuses, on dit, bon voilà, pour des jeunes diplômés que vous êtes, voilà ce qu'on propose pour vous. Et puis, en fin de compte, on se rend compte que 4 ans, 5 ans après, rien n'y fait. Donc, on se dit que tout est du bluff et que rien n'essaie encore de faire plaisir à certaines personnes en allant prendre les cartes d'électeurs pour aller voter. C'est une manière pour moi de leur dire que j'en ai marre. Voilà.
Tatiana Mosso à Abidjan pour VOA Afrique.
Mali, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a affirmé hier n'avoir jamais eu de relation d'affaires avec l'homme d'affaires français Michel Tomy. En marge de sa visite officielle de 2 jours à Paris, où il a été reçu en grande pompe par François Hollande, son homologue français, M. Keïta a tenu à clarifier la situation. Lucie Lamont.
Ibrahim Boubacar Keïta a déclaré lors d'une conférence de presse « Je reste droit dans mes bottes. Au-delà de la relation d'amitié, il n'y a jamais eu de relation d'affaires. » Il a ajouté « Je suis à l'aise et je ne courbe pas l'échine », se comparant à la blanche colombe. Ibeka a poursuivi « Je continue mon vol. On a même essayé de saboter cette visite à Paris, peine perdue. » Avant de conclure en disant que certaines choses doivent mourir de leur propre venin. Michèle Thomy avait été mise en examen en juin 2014 dans un dossier de fraude fiscale présumée concernant notamment l'achat de l'avion du président malien. La mise en examen de cette figure corse du jeu en Afrique se fonde sur des allégations de corruption d'agents publics étrangers, de faux et d'usage de faux, d'abus de confiance, de recel d'abus de biens sociaux, de complicité d'obtention indue d'un document administratif et de travail dissimulé. Les forces de l'ordre enquêtent pour savoir dans quelle mesure Michèle Thomy a participé à l'achat du Boeing présidentiel malien. C'est le vérificateur général malien qui a épinglé cette acquisition. Quant à l'enquête, elle a débuté suite à un signalement de la cellule française de renseignement financier en 2012.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Congo-Brazzaville, retour à un calme précaire après les affrontements d'hier entre forces de sécurité et manifestants opposés au référendum constitutionnel de dimanche qui pourrait permettre au président Denis Sassou Nguesso de se représenter en 2016. Selon Parfait Kolelas, leader du MCDDI d'opposition, des représentants de l'opposition et de la société civile doivent s'entretenir aujourd'hui avec des émissaires des États-Unis et de l'Union européenne au sujet de la crise dans le pays. Pour sa part, Christian Munzeo, patron de la rencontre pour la paix et les droits de l'homme dans la société civile, appelle à la protection de la population.
On est dans un état de droit, on ne peut pas se permettre aujourd'hui que des personnes, le frère et tout, soient inquiétées, tuées, traquées pour certaines aujourd'hui parce qu'il y a des raisons politiques à cela. C'est pour ça que nous en appelons à l'intervention du président de la République, le garant de la paix dans le pays, et qu'il constate qu'il y a un problème et il n'y a que lui qui peut sortir le pays de cette situation. Et nous appelons les partis politiques à s'asseoir, à discuter et surtout à faire en sorte que les populations soient protégées, que les populations aient la vie sauve.
Christian Munzeo de la société civile. Et puis lutte contre Boko Haram au Tchad. Après les arrestations de femmes portant la burqa interdite, ce sont maintenant les propriétaires de véhicules à vitres teintés aux fumées qui sont ciblés par les autorités dans le cadre des mesures de sécurité, nous dit notre correspondant à N'Djamena, André Kodmajingar.
Interdiction formelle de circulation des véhicules à vitres teintés ou fumées sur l'ensemble du territoire national. C'est une ancienne mesure réactualisée dans le cadre de la lutte contre l'infiltration des éléments du groupe d'État islamique de l'Afrique de l'Ouest ex-Boko Haram sur le territoire tchadien. Une commission est mise en place et présidée par le directeur général de la police nationale chargée de l'exécution immédiate de cette décision. Ahmad Mohamed Bachir, ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, est dur.
Il y a des petits voyous qui narguent l'État, mais on va les narguer et on va les trouver sur notre chemin. On appliquera toute la loi sur eux. Je ne veux pas entendre parler de vitres originales. On va casser.
Aussitôt dit, aussitôt fait. Environ 300 véhicules à vitres teintées ou fumées sont arrêtés dans la ville de N'Djamena en moins d'une semaine par la dite commission. Tout propriétaire doit payer une amende de 5 000 francs CFA avant de retirer son véhicule avec un engagement ferme de remplacer les vitres dans un meilleur délai. Quelques victimes expriment leur mécontentement.
C'était une surprise pour moi parce qu'il y a un arrêté. Rien n'est mentionné comme quoi le propriétaire doit payer 1 franc pour pouvoir récupérer son véhicule. C'est pas normal que le peuple soit vraiment soumis à une amende qui n'est même pas légale.
Je viens de payer les 100 000 francs. Je ne sais pas pourquoi on nous taxe de Boko Haram, on nous traite de voyous.
C'est vraiment du zèle. On prend nos véhicules, maintenant on nous demande de payer 100 000. Et qu'est-ce qu'on nous donne en contrepartie? Des amendes forfaitaires de 2000 francs. 2000 francs, ça fait 50 pour faire l'équivalent de 100 000 francs CFA.
Les propos du ministre sont d'autant plus choquants parce qu'il est en train de créer de cette manière une certaine stigmatisation. Ce n'est pas de cette manière qu'on peut créer une adhésion de la population aux mesures qui sont prises.
Dans un arrêté publié ce mercredi par le ministre de la Sécurité publique, un délai de 2 mois est accordé aux usagers de se conformer à cet acte administratif. Pour le constitutionnaliste Dr Ahmad Mohamed Hassan, cet acte est sans fondement juridique.
L'article 2 de l'arrêté dit que les propriétaires de ces véhicules disposent d'un délai de 2 mois pour se conformer aux dispositions du présent arrêté. Ça veut dire que c'est un délai moratoire. Et ce délai moratoire veut dire que c'est après ce délai de 2 mois que la police pourrait sortir dans les rues et commencer à appréhender les éventuels contrevenants. L'arrêté est en contradiction totale avec les principes de la République et de l'égalité du droit. Une amende de 100 000 francs, ça sort de l'ordre d'une amende forfaitaire. Et là, ça entre dans le domaine de la loi. Et moi, je n'ai pas vu un texte qui prévoit cette amende forfaitaire de 100 000 francs pour les contrevenants. D'ailleurs, je suis désolé que les contrevenants soient soumis à cela avant l'expiration du délai de 2 mois. Les 100 000 francs sont basés sur quelle base? Ça, c'est une irrégularité grave et que les autorités doivent rappeler cela à l'ordre.
André Kodumadjingar N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com et puis aussi sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.